Salut Bastien.
Salut Jérémy.
Alors, Bastien ou le druide moderne,
Ouais.
comment dois-je t'appeler au cours de cet épisode?
Bastien, ce sera
Ce
mieux.
sera plus court, je pense. Ce sera plus
Ouais.
court. Oui, effectivement, tu officies sur les différents réseaux sous le pseudo druide moderne, un pseudo qui est génial. Je dois
Merci.
te l'avouer, je pense qu'on te l'a assez dit. C'est comme ça que j'ai pu te découvrir. Ça fait quelques temps qu'on échange, toi et moi. On a déjà échangé il y a quelques temps, il y a maintenant un an en arrière, je crois.
Ouais, à
Grosso
peu près,
modo,
ouais.
par Zoom à peu près. Et on a enfin réussi à reprendre contact pour que tu puisses passer sur mon podcast.
Yes.
Alors, pourquoi je t'ai invité? Tu découvres les sujets parce que voilà, j'aime effectivement plus axé sur l'échange que sur une notion de question-réponse avec les préparations en amont. Ça ne me plaît pas comme type de podcast. Vraiment, j'aime bien la spontanéité. Il y a trois sujets que j'aimerais aborder avec toi durant l'heure que nous allons avoir ensemble. Le premier, c'est la testostérone. Le deuxième, c'est la connexion à la terre.
Ouais.
Et le troisième, c'est tout ce qui est plante médicinale.
Ok.
Au final, tout est lié.
Tout
Comme
est lié,
toujours, les
ouais.
connexions
Bien
sont très bien.
sûr.
Donc, dis-moi pour commencer, quel sujet te plairait le plus pour attaquer l'épisode?
On peut commencer avec la connexion à la Terre. Je trouve que c'est une base sur laquelle j'aime bien commencer. C'est parce que j'aime bien parler des quatre éléments. Donc la Terre,
Yes.
l'eau, l'air et le soleil. Et je trouve que la Terre, c'est un élément basique. C'est l'ancrage, en fait. Donc j'aime bien partir de cette thématique-là.
D'accord, et quelle question vas-tu que je te pose par rapport à cette thématique-là?
Qu'est-ce que tu veux que...
Ouais.
Quelle question? Ben, ça dépend un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir sur la mise à la terre? Qu'est-ce que ça veut dire?
Pars du
Qu'est-ce que ça...
principe, alors je m'y connais un peu, chez moi j'ai quelques équipements, j'ai déjà testé toutes mes prises, voir si elles étaient ou non à la terre, je connais les bénéfices, je connais les principes, mais quand
Ouais.
même pars du postulat que les gens de mon audience ne connaissent pas spécialement parce que c'est un sujet qui malheureusement est beaucoup trop peu développé.
Bien sûr.
Pourtant, qui est omniprésent. Et comme j'aime à le dire, hier j'ai enregistré un épisode de podcast avec Anthony Lespade. On en a beaucoup parlé de ce sujet-là, à savoir le fait que dans l'environnement, il y a beaucoup de forces invisibles, on va dire, qui nous volent notre énergie au quotidien. Ça peut être les perturbateurs endocriniens, ça peut être les ondes, et ça peut être également du coup les ondes électromagnétiques, comme la Terre, tout simplement. Et sans cette
Exactement.
mise à la Terre-là, effectivement, on perd de l'énergie sans s'en rendre compte, jour après jour, en affaiblissant notre organisme, ce qui fait qu'au final, on est beaucoup moins efficace, beaucoup moins concentré, beaucoup moins productif qu'on devrait l'être si on pouvait supprimer ces éléments-là. Non, c'est cet angle-là qui m'intéresse par rapport à la mise à la terre. Qu'est-ce que
D'accord.
ça fait sur le corps? Comment se mettre à la terre? Pourquoi c'est intéressant? Quelles sont les bonnes pratiques? Et quels sont les outils potentiellement que tu peux recommander toi pour une mise à la terre efficace au quotidien? J'espère que j'ai
D'accord.
pas été trop vaste dans mes questions. Le
Ça
sujet est
va.
assez large, mais voilà.
Va
Voilà
bien.
plein de différents angles que j'aimerais aborder avec toi.
Ok. Si jamais, de toute façon, j'oublie des questions, tu me rappelleras.
Ça marche.
Et moi, j'ai envie de partir un peu du fait que qu'est-ce que c'est la mise à la terre? En fait, il faut savoir que l'être humain, il est né connecté à la terre, connecté à la nature. On est né nu, pieds nus, etc. L'humain, il est né d'une évolution en fait qui date de millions d'années d'évolution en symbiose avec la nature. Donc en fait, c'est un lien qu'on a déjà depuis l'aube de l'humanité finalement, et c'est un lien qu'on a perdu aujourd'hui. En fait, on a, comme je l'ai dit, en fait, avant, on vivait sans chaussures, avec peu de vêtements, etc. Et puis petit à petit, on s'est équipé, etc. Et puis depuis les années à peu près 50-60, on a créé des chaussures, des baskets avec des semelles qui sont en caoutchouc. Et en fait, ces semelles-là vont nous isoler de la Terre, nous isoler électromagnétiquement de la Terre. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la Terre, il faut la voir un petit peu comme une source, comme une batterie en fait qui se recharge en permanence. Et c'est une source en fait quasi infinie d'électrons. Donc la Terre, elle va se recharger de différentes manières en permanence d'électrons. Donc tu as d'une part les vents solaires, tu as la foudre en fait qui s'abat sur la Terre chaque seconde, tu as je crois 50 coups de foudre par seconde qui s'abattent sur la Terre, qui vont la recharger en permanence, et tu as aussi le noyau liquide de la Terre qui est en rotation, qui va générer des électrons. Donc en fait, on a plusieurs sources comme ça qui vont générer des électrons, et la Terre va emmagasiner ces électrons, et les êtres vivants, en fait, de par leur connexion physique avec la Terre, vont pouvoir bénéficier de ces électrons. Et en fait, quel est l'intérêt finalement de ces électrons? C'est que ils ont un rôle antioxydant. Donc, comme tu l'as mentionné juste avant, dans notre environnement, on est maintenant exposé à tout un tas de polluants, de toxines, de perturbateurs endocriniens, etc., qui vont générer des radicaux libres dans notre corps. Tu as aussi les champs électromagnétiques, donc après on va en parler. Et en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à lutter contre cette contre tous ces radicaux libres en fait. Puisque en fait, notre alimentation, elle est de plus en plus pauvre en nutriments, en antioxydants, et d'autre part, on a de plus en plus de polluants, de toxines, etc. Donc en fait, il y a vraiment un déséquilibre entre radicaux libres et antioxydants, ce qui va générer de l'inflammation, ce qui va générer un vieillissement accéléré, et du coup, de là va découler plein de pathologies qui sont liées à ce manque d'antioxydants et cet excès de radicaux libres. Donc la mise à la terre, finalement, c'est quelque chose de vraiment basique qui permet de rééquilibrer un petit peu ce déséquilibre. Donc, comme tu l'as dit, tu as aussi les champs électromagnétiques qui vont générer des ions positifs dans notre corps. Et en fait, ça va créer une sorte de déséquilibre au niveau de la balance bioélectrique de notre corps. En fait, on va avoir plus de charges positives que de négatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? C'est des molécules qui ont perdu un électron. Un électron, c'est une charge négative. Donc, en fait, si tu as une molécule qui est à la base, qui est neutre électriquement et qu'elle perd un électron, ben là, elle va devenir positive. Donc là, c'est un radicaux libre. Et le radicaux libre, il veut chercher absolument à se rééquilibrer, à retrouver sa neutralité. Donc c'est un voleur d'électrons. Et c'est ça qui va générer des dégénérescences, etc. Et donc, plusieurs manières de rééquilibrer. Tu as les antioxydants apportés par l'alimentation, mais aussi tu as les électrons qui sont apportés par la Terre. Donc finalement, c'est une manière très simple et ancestrale, même j'ai envie de dire, d'apporter une certaine quantité d'électrons, d'antioxydants naturels. Et comme je l'ai dit, en fait, comme on a perdu ce lien électrique ancestral, bah maintenant il faut trouver des astuces, des solutions pour rétablir ce lien dans notre quotidien. Parce que bon, on va pas se mettre à marcher pieds nus H24, on va pas dormir par terre dans notre jardin. Voilà, c'est pas possible aujourd'hui. Et d'autant plus que maintenant c'est voilà, on vit dans des bâtiments, etc. Donc il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place au quotidien. Alors, la meilleure des manières de faire, bien sûr, c'est de marcher pieds nus, etc. Et ça, je le recommande, tu vois, en priorité. Moi, tous les matins, je sors de chez moi, je fais mes étirements dans mon jardin, etc. Ça me permet de bénéficier déjà, d'une part, de la connexion électromagnétique, mais même, tu vois, les bienfaits de marcher pieds nus, il y a d'autres bienfaits. Et de la connexion à la nature, c'est très important. Mais après, au quotidien, il y a plein de petits accessoires qu'on peut utiliser pour soit rétablir ce lien, soit aussi se protéger des champs électromagnétiques. Donc il y a deux niveaux sur lesquels tu peux agir. C'est se protéger des champs électromagnétiques pour éviter de générer des ions positifs, ou aussi rétablir ce lien avec la Terre, avec des accessoires, pour évacuer les tensions électriques qui sont induites par les champs électromagnétiques. Donc comment ça marche un petit peu, c'est que en gros, dans notre environnement aujourd'hui, on a deux types principaux de champs électromagnétiques qui vont être nocifs pour notre santé. Donc là, je parle vraiment des champs électromagnétiques artificiels, évidemment. Je ne parle pas des champs électromagnétiques naturels, parce que dans la nature, tu as plein de champs électromagnétiques qui sont générés par la Terre, etc., mais qui sont censés ne pas avoir d'impact négatif, puisqu'on a évolué en symbiose avec la nature. Et donc là, vraiment, je parle de tout ce qui est généré par nos appareils électroniques, d'une part, et tout ce qui est moyen de communication sans fil, donc Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc en gros, tout ce qui est communication sans fil, ça va générer des champs électromagnétiques haute fréquence. Et tout ce qui est appareil électronique qui est branché sur nos prises murales, ça va générer des champs électromagnétiques basse fréquence. Et en fait, on va agir différemment en fonction du type de champ électromagnétique. Donc tout ce qui est champ électromagnétique haute fréquence, en fait, on ne peut pas utiliser la mise à la terre pour s'en protéger. Alors, je peux pas rentrer vraiment dans les détails parce que je ne suis pas assez un expert là-dedans. Mais la seule chose qu'on peut faire pour tout ce qui est Bluetooth et Wi-Fi, c'est soit de couper la source, donc couper son Wi-Fi, couper son Bluetooth. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est couper son Wi-Fi la nuit, utiliser le moins possible de Bluetooth, ou quand on ne peut pas faire autrement, c'est de s'éloigner des sources de champs électromagnétiques haute fréquence. Donc s'éloigner de son enceinte Bluetooth, s'éloigner d'une borne Wi-Fi, ou s'éloigner aussi de tout ce qui est antenne 3G, 4G, 5G, etc. Donc
Je
c'est
me
pour ça
permets
que...
très rapidement de te couper.
Vas-y,
Pour
vas-y.
le Wi-Fi la nuit, c'est vrai que c'est une très bonne chose, on n'y pense pas. Et
Ouais.
le problème souvent, c'est qu'on n'a pas le réflexe. On a beau connaître parfois l'idée effectivement de faire ça, mais on n'a pas le réflexe. À mon niveau, j'ai acheté une prise simplement qui a un minuteur, qui
Ah, pareil.
automatiquement coupe la box tous les soirs de 23h jusqu'à 7h du matin.
Ouais,
comme ça, on retire une action en plus du quotidien, on n'a pas besoin d'y penser, on ne s'en veut pas. Et c'est vrai que l'argument également souvent que m'oppose, c'est ok, moi je suis dans un immeuble, le problème c'est que mes voisins gardent le wifi. D'accord, mais un vaut mieux que zéro.
Exactement.
Il
voilà.
Faut pas se niveler vers le bas, mais vraiment se tirer vers le haut. C'est pas parce que les autres le font que nous aussi on doit maintenir la source de wifi qui est proche de nous. Mm-hmm. Une en moins, c'est toujours ça de gagner, on va dire.
Bien sûr.
C'est pourquoi on attend ton discours, mais c'est vrai que cette notion de prise vraiment murale qui coûte une trentaine d'euros, ça coûte rien et ça déresponsabilise. C'est plugé, on la paramètre, on n'y pense plus une seule seconde. Et c'est un vrai game changer.
Exactement. Ouais, je fais exactement la même chose et j'allais le recommander. Donc, tu fais bien de le mentionner. Et effectivement, c'est une très, très bonne astuce. Après, tu n'y penses plus, tu es tranquille. Et comme tu le dis, en fait, faut pas se dire « Ah, bah, de toute façon, tous mes voisins vont laisser leur box Wi-Fi allumée. Ah, de toute façon, on est exposé constamment de champs électromagnétiques, il n'y a rien à faire. » Bah si, en fait, tu peux quand même agir. Il faut toujours faire de son mieux de toute façon. Voilà. Il y aura toujours un impact positif. Donc pour tout ce qui est champ électromagnétique haute fréquence, s'éloigner de la source, couper la source si on peut. Et je parle aussi, par exemple, maintenant on voit de plus en plus de personnes qui utilisent des écouteurs Bluetooth, donc les AirPods typiquement. Et ça, c'est vraiment, je pense, le pire qui puisse exister aujourd'hui, parce que là, on va avoir vraiment les champs électromagnétiques haute fréquence qui sont générés directement au plus proche du cerveau. Donc là, tu vois, tu es à l'intérieur de ton conduit auditif, au plus proche de ton cerveau. Donc là, tu vas avoir des champs électromagnétiques ça va être catastrophique parce que tu vas pendant des heures avoir vraiment un truc qui va te griller le cerveau, entre guillemets. Et en plus, tu as une sorte d'effet d'interférence quand tu portes deux écouteurs, tu vois, parce que tu vas avoir une sorte d'interférence positive entre tes deux écouteurs. Donc c'est encore pire si tu portes deux écouteurs versus un écouteur.
En plus, il y a des bijoux, le type boucle d'oreille, et c'est encore pire parce que ça crée un champ également au niveau des boucles d'oreille, potentiellement avec le métal.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est assez terrible. J'arrive pas à comprendre que ça soit légal aujourd'hui. Hein.
Moi non plus, tu vois, je comprends pas parce que, en plus, ouais, ce qu'il faut dire, c'est que quand tu mesures avec des appareils qui permettent de mesurer les champs électromagnétiques haute fréquence, tu vois que ces types d'appareils dépassent les normes autorisées. Donc, en gros. On a une norme, alors il y a plusieurs normes qui existent, mais il y a une norme qui est assez stricte qui s'appelle, ça s'appelle la bobiologie, c'est une norme allemande qui considère qu'au-delà de 1 volt c'est pas la même chose, je confonds avec la tension induite qui elle concerne les champs électromagnétiques basse fréquence. Pour les champs électromagnétiques haute fréquence, tu as certaines normes, et je sais que ces appareils Bluetooth dépassent déjà les normes. Donc, c'est pas juste un petit peu, c'est énorme. Donc, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut éviter. Donc, utiliser des écouteurs filaires ou encore mieux, tu vois, moi, j'ai des écouteurs stéthoscopiques ici.
Okay.
Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est en fait des écouteurs. Parce qu'en fait, dans les écouteurs même filaires, tu as quand même un petit peu de champs électromagnétiques qui sont générés par les haut-parleurs. Donc, en fait, ici, tu vas avoir... Les gens qui nous écoutent ne verront pas, mais en gros, c'est comme si tu avais des haut-parleurs qui étaient à distance de tes oreilles. Mais en fait, de ces haut-parleurs, tu as des petits tubes en plastique en fait qui sont vides, qui vont juste conduire le son avec de l'air. Et après, tu as les embouts qui viennent à ton oreille. Donc en fait, tu as les champs électromagnétiques qui sont à distance de tes oreilles au lieu de les avoir directement dans tes oreilles.
Alors, si tu peux nous recommander la marque à l'occasion, je la mettrai en description. Mais ça fait un peu écho comme système au gobelet quand on était jeune, qu'on transperçait avec un fil. Je sais pas si ça te parle.
Oui,
je parle dedans. C'est le même principe, simplement c'est l'air qui déplace du coup la vibration et qui permet d'avoir du coup le son sans proximité avec les écouteurs, comme tu l'as très bien dit.
Ouais, c'est ça.
Les haut-parleurs.
En fait, c'est des écouteurs de la marque Inaltera. Avec je suis en partenariat, qui est vraiment, ils sont vraiment excellents. D'ailleurs, c'est chez eux que je me fournis tous mes accessoires de protection contre les champs électromagnétiques et de mise à la terre. Ce type d'écouteurs vraiment intéressant. Donc, pour en revenir aux différents types de champs électromagnétiques, donc là, on a abordé les champs électromagnétiques haute fréquence, puis après, tu as tout ce qui est basse fréquence, et là, on va agir d'une manière un petit peu différente. Donc, aujourd'hui aussi. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus d'appareils électroniques qui ont des chargeurs qui n'ont plus la prise terre. Donc, bon, là, tu vois à la caméra, on a maintenant des prises qui ont seulement deux fiches qui vont s'insérer dans le mur, alors qu'avant, on avait la prise terre qui venait avec. Et ça, c'est un petit peu problématique parce qu'en fait, cette prise terre permettait justement d'évacuer une grosse partie des champs électromagnétiques basse fréquence qui sont générés par les appareils électroniques. Donc maintenant, tu vois, les téléphones les chargeurs de téléphone, les chargeurs d'ordi, souvent, n'ont plus cette prise. Même, il y a d'autres appareils qui n'ont plus cette prise. Donc, en fait, on va avoir notre environnement qui va être pollué, en fait, de champs électromagnétiques basse fréquence. Et le problème, c'est que ces champs électromagnétiques basse fréquence vont générer une tension induite dans notre corps, qu'on peut mesurer d'ailleurs avec un voltmètre. Donc moi, j'ai fait l'expérience sur mon compte Instagram. J'ai même fait une petite démo, tu vois, en live, entre guillemets, où je montre que quand je branche mon chargeur de téléphone qui n'a pas de prise terre, ça va générer plusieurs volts de tension induite dans mon corps. Et cette tension induite, ça représente un petit peu cet excès, on va dire, de charges positives qui sont générées par les champs électromagnétiques. Et en fait, il y a un truc tout simple qu'on peut faire, c'est d'acheter un petit accessoire. En plus, c'est vraiment pas cher. Je vais te le montrer.
Pendant que
En
tu trouves
fait,
rapidement, je fais une précision aussi. C'est pas parce que vous avez effectivement la prise terre également dans la prise que cette prise-là est connectée à la terre.
oui,
Il faut faire aussi
tu fais
attention à
bien de
ça,
le
parce que des fois
mentionner, ouais.
on a testé toutes les prises chez nous et là toutes les prises possèdent effectivement cette fiche terre, mais
Ouais.
toutes ne sont pas connectées à la terre. Donc juste ne pas se fier aux apparences. Vraiment acheter un appareil pour mesurer si oui ou non la prise est connectée à la terre.
Bien, ouais, c'est un très bon point que tu soulèves ici. Quand on veut mettre à la terre ces appareils, il faut toujours vérifier nos prises. Et d'ailleurs, tu peux trouver, soit sur le site d'Inalterra, soit même dans les magasins de bricolage, tu as un petit appareil, un testeur de prise qu'on appelle. Donc, ça coûte peut-être les 15-20 euros maximum, que tu branches sur ta prise et qui permet de voir si ta prise terre est effectivement bien connectée à la terre. Parce qu'en fait, juste pour un petit détail, pour ceux qui savent pas, en fait, toutes les prises terre de nos maisons sont reliées physiquement à la terre. En fait, tu as une fiche qui va relier toutes ces prises terre et qui est ancrée dans la terre. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir évacuer une partie des champs électromagnétiques, c'est en rétablissant en connectant nos appareils à la prise terre de nos maisons. Et donc, en fait, quand on n'a plus cette prise terre, on peut utiliser des petits câbles USB, ce qu'on appelle des câbles de USB de mise à la terre, qui vont en fait mettre à la terre nos prises USB. Par exemple, si on a sur une multiprise, on a par exemple deux prises USB. On va brancher notre téléphone en charge sur une première prise USB. Puis la deuxième prise USB, on va la mettre à la terre. Donc c'est un câble qui va relier le deuxième câble USB à la prise terre de la multiprise ou de la prise murale. Et donc comme ça, en fait, on rétablit cette prise terre qui n'existe plus. Et quand on mesure la tension induite dans notre corps, quand on fait cette petite expérience, en fait, on voit tout de suite l'effet de cette mise à la terre. Moi, j'avais fait une expérience où j'étais à des dizaines de volts quand je tenais mon téléphone portable en main qui était en charge sans prise terre. Et dès que je mettais mon petit câble de mise à la terre, en fait, je passais en dessous de 0, enfin de 0,1 volts. Et la norme, en fait, là, c'est la norme de la bobiologie, là, normalement, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle considère qu'en fait, au-delà de 1 volt de tension induite, c'est trop. Et donc, là, tu passes vraiment en dessous de 1 volt, juste avec ce petit câble qui, en plus, coûte pas cher. Donc, c'est vraiment des petites choses aussi qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, qui, une fois qu'on les met en place, finalement, après, on n'y pense plus. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de repérer un petit peu tous les appareils électroniques qu'on a chez nous, qui n'ont pas de prise terre, et les mettre à la terre tout simplement. Donc voilà, une manière encore simple d'agir. Et l'idéal vraiment, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment d'agir à la source le plus possible. Parce qu'après, on a d'autres types d'accessoires qui vont permettre d'évacuer la tension induite dans notre corps. Donc là, on va parler de tout ce qui est tapis de mise à la terre, natte de mise à la terre, etc. Mais vraiment, l'idéal, c'est d'agir à la source du problème. Tu vois, c'est comme si... Moi, j'aime bien imager ça un petit peu comme si nos appareils électroniques généraient un nuage de poussière, tu vois, pour rendre la chose un petit peu visuelle, et que les tapis de mise à la terre, c'était un petit peu comme un aspirateur, tu vois. Mais si à la base, tu coupes la source de ce nuage de poussière, c'est bien mieux que d'aspirer en permanence ta poussière qui s'évacue via tes tapis de mise à la terre. Donc, vraiment agir à la source d'abord, et ensuite, tu peux utiliser des petits accessoires. Donc tapis de mise à la terre, natte de mise à la terre, pour évacuer la tension résiduelle induite par les champs électromagnétiques. Parce que, bien sûr, c'est jamais parfait, même si on met tous nos appareils à la terre, etc., tu auras toujours dans ton environnement un petit peu de champs électromagnétiques basse fréquence qui va générer une tension induite dans ton corps. Donc là, l'idéal, c'est d'utiliser des tapis ou des nattes. Donc ça... Comment ça marche? En gros, c'est un petit tapis, comme un tapis de souris un peu plus grand. Là, j'en ai un, tu vois, sous mes pieds actuellement. et qui a une surface qui est conductive et qui est reliée à un petit câble qui est connecté à la prise terre de ta maison. Et donc là, c'est un petit peu comme si tu étais connecté à la terre, comme si tu marchais sur la terre. Donc tu rétablis cette connexion électromagnétique avec la terre, avec ce tapis. Donc moi, j'en ai un, par exemple, quand je travaille, j'ai toujours mon tapis sous mes pieds ou sous mes avant-bras. Ça, c'est assez pratique parce que tu sais, tu peux le. Bah, c'est assez versatile, c'est un tapis universel qu'on appelle. Donc tu peux le mettre sous tes avant-bras, sous tes pieds, peu importe. Et après, j'ai pendant la nuit une natte de lit, de mise à la terre. Donc ça, c'est une natte qui va se mettre sous le drap housse. Et là, c'est vraiment excellent parce que finalement, tu bénéficies pendant un tiers de ta vie de la mise à la terre, donc de tous les bienfaits qui vont avec la connexion à la terre. D'ailleurs, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais il y a plein de bienfaits à se connecter à la terre en dehors de la protection électromagnétique. Donc, c'est un rôle antioxydant, anti-inflammatoire, ça réduit le cortisol, ça régule la sécrétion de cortisol, donc ça permet de resynchroniser ton rythme circadien, d'avoir des pics de cortisol qui vont être générés plutôt le matin et de ne pas avoir de pics de cortisol en pleine nuit, etc. Ça permet aussi de diminuer la viscosité sanguine, donc d'avoir une meilleure circulation sanguine, potentiellement de diminuer les troubles cardiovasculaires, l'hypertension, ça réduit l'inflammation, etc. Donc, il y a plein de bénéfices. Donc, tu vois, d'avoir une connexion comme ça pendant un tiers de ta vie où tu es connecté à la Terre, bah, tu sais que tu as ce petit plus qui demande aucun effort finalement une fois que tu as investi, on va dire, dans cet accessoire.
Je me trompe peut-être, mais il n'y a pas aussi une production de GABA qui est liée à une connexion à la Terre? Ou c'est uniquement
C'est
dans la nature?
possible, alors j'en suis
Je
pas.
suis pas sûr à 100%, mais ça me vient à l'esprit. Peut-être que je confonds tout simplement avec une marche aussi en nature qui, elle, par contre, est productrice de GABA. J'en suis quasiment certain.
Ouais.
Est-ce que la mise à la Terre seule le produit? Je sais pas. Mais c'est vrai que tu as entièrement raison. L'avantage d'une natte de lit, c'est que c'est 100% transparent. C'est un vrai argument en fait. C'est un investissement. Certes, c'est un coût. Mais par rapport au bénéfice qu'il y a derrière, c'est la nuit et le jour. Encore une fois, ce n'est pas une action. C'est pas comme méditer. Méditer, on
C'est
peut se
ça.
dire ok, au début c'est long, il y a une inertie, il n'y a pas de bénéfice immédiat. Là, on met la natte, on remet ses draps, on dort. Ça ne
C'est ça.
change rien, il n'y a même pas d'inconfort, il n'y a rien du tout. La
Non.
seule chose à faire, c'est de brancher une prise. Littéralement.
Exactement.
Donc c'est juste ridicule par rapport au bénéfice qu'il y a derrière, et comme tu l'as dit, ça induit un tiers de sa vie connecté à la Terre sans faire aucun effort. Et en plus, il y a des bénéfices en termes de qualité de sommeil, de rythme
Oui.
circadien, comme tu l'as très bien dit, et j'en passe. Donc c'est un très très bon investissement, encore une fois.
Carrément, carrément. Donc c'est marrant parce que tu vois, la mise à la terre finalement au début on pensait que c'était un truc assez un petit peu hippie ou l'ancrage, etc. Et finalement on se rend compte que tu as de plus en plus d'études qui confirment que la mise à la terre a plein de bénéfices. Et c'est ça que je trouve ça génial, moi, c'est que finalement on se rend compte qu'il y a plein comment dire, de pratiques ancestrales, traditionnelles, un peu spirituelles, énergétiques, qui ont une base physiologique, physique. Et je trouve que de plus en plus, en fait, on voit une sorte de fusion finalement de la science, de la spiritualité, de tout ce qui est énergétique, etc. Et c'est ça que j'aime bien aussi.
C'est vrai qu'on dit très souvent, du moins certaines personnes le disent, que la science n'est là que pour prouver les intuitions que l'on peut avoir déjà.
Ouais,
Alors c'est pas vrai
100%.
à 100%, évidemment, mais
Ouais.
c'est souvent le cas quand même, on le remarque. Juste
Ah
être au
oui.
soleil la nuit, etc., prier au soleil, ce qui était demandé du coup avant dans le passé, etc.,
Ouais.
ça induit forcément des bonnes choses, parce que l'exposition au soleil, notamment le matin, est essentielle pour le rythme biologique. Aujourd'hui,
Complètement.
on s'en est coupé, on s'en est privé. Mais avant, nos ancêtres le faisaient, les saluts au soleil et j'en passe. Donc oui, la science souvent est là pour justement mettre des informations factuelles sur des ressentis qu'on a depuis des millénaires potentiellement.
Ça nous rassure en fait.
Oui, ça nous rassure. Bah, étant très cartésien au niveau occidental, là, ça nous rassure.
C'est ça. Bah,
Ok.
je pense qu'on a fait un peu le tour sur la mise à la terre, ce que
Il
tu avais
reste des
découvert.
chaussures de mise à la terre.
Ah oui,
Tu parles,
bien.
tu montes souvent des chaussures, effectivement.
C'est
J'ai failli
vrai.
les acheter, du coup, t'es un très bon influenceur. Je pense à les commander bientôt, d'ailleurs. Veux-tu en parler un peu de ces chaussures-là?
Ouais, donc alors maintenant j'ai deux paires en fait de chaussures qui sont mises à la terre ou connectées à la terre. Donc en fait elles ont deux avantages, c'est que d'une part elles sont minimalistes, ce qu'on appelle barefoot en anglais, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une semelle très fine, sans talonnette, et ce qui va permettre de reproduire un petit peu une marche qui est naturelle, un petit peu comme si on marchait pieds nus, mais avec une protection supplémentaire. Donc ça a d'autres bénéfices, mais en plus elles ont cette connexion à la terre qui est établie en fait avec un petit rivet en cuivre qui est installé en fait sous la semelle. Donc ce rivet en cuivre traverse la semelle et est relié à, alors J'ai deux paires de chaussures, une paire de sandales et une paire de, on va dire, mocassins. Donc là, je vais prendre l'exemple de des sandales pour commencer. Donc en gros, ce rivet en cuivre, il est relié aux fibres, oh, pardon, aux sangles qui vont entourer ton pied, donc qui vont
Ok.
maintenir ton pied. Et ces sangles contiennent des fibres qui sont conductives. Donc en fait, tu as une connexion électromagnétique qui est établie grâce à ce lien entre le cuivre qui lui va toucher la terre quand tu marches et ces sangles qui parcourent ton pied. Donc c'est un petit peu comme si tu marchais pieds nus. Ça rétablit cette connexion électromagnétique. Donc en fait, tu vas bénéficier de la mise à la terre en marchant dans la nature sur des terrains, tu vois, où tu peux pas forcément marcher pieds nus parce que c'est un petit peu dangereux ou parce que ça fait un petit peu plus mal aux pieds que si tu marchais pieds nus ou parce que tu n'as tout simplement pas envie de marcher pieds nus. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas tout le monde qui a envie de marcher pieds nus comme moi. Et du coup, là, tu peux bénéficier de la mise à la terre d'une manière simple. Pareil, c'est un investissement, mais après, tu n'y penses plus et tu as ça dans ton quotidien. Et puis après, tu as une autre paire de chaussures que j'ai achetées récemment, qui, elle, c'est un petit peu différent, mais enfin, le principe reste le même. En gros, tu as un rivet en cuivre, sauf que tu n'as pas de sangle qui va parcourir ton pied, tu as juste une sorte de. Ben en fait, le rivet, il va arriver au niveau de ta semelle intérieure. Et du coup, tu as ton pied qui va reposer dessus. Donc, tu établis le lien électromagnétique. En plus, elles sont en matière 100% naturelle. C'est du 100% cuir. Et normalement, le cuir, si je dis pas de bêtises, il permet la connexion électromagnétique. Donc, même sans ce rivet, je pense qu'on pourrait quand même bénéficier de la mise à la terre avec ces types de chaussures en matière 100% naturelle. Comme le faisaient nos premiers ancêtres, parce qu'ils avaient tous des chaussures en cuir.
Et tu as pu tester du coup avec un appareil la différence entre les chaussures que tu as toi et les chaussures dites classiques entre guillemets?
Alors j'ai essayé, pour être honnête, et en fait j'en ai discuté avec Sébastien, qui est le gérant de Inaltera, parce que j'ai vu passer une vidéo sur les réseaux qui a fait le buzz, et tout le monde m'a envoyé, où tu vois un mec qui mesure, il mesure sa tension, je crois, sa tension corporelle avec un voltmètre, quand il est pieds nus, versus quand il porte des baskets. Et en fait, il montre des valeurs qui sont assez énormes, comme si finalement tu avais un courant qui passait dans ton corps quand tu es connecté à la Terre. Et c'est là où je comprends pas trop en fait l'idée, parce que normalement, moi d'après ce que j'ai compris, les champs électromagnétiques induisent une tension et la mise à la Terre permet de ramener à zéro ta tension, tu vois. Donc quand j'ai vu cette vidéo, je me dis ça n'a pas trop de sens et j'ai fait moi-même le test et j'obtiens pas les mêmes résultats que le mec. Et je pense que c'est parce que en fait, quand je fais le test, je suis dans mon jardin et je suis trop loin de tout ce qui est champ électromagnétique basse fréquence. J'ai rien qui va générer des champs électromagnétiques basse fréquence à proximité. Du coup, j'ai pas de tension induite. Du coup, je mesure pas vraiment de différence. Donc, ce qu'il faudrait faire, peut-être, ce serait d'avoir des appareils connectés à proximité et voir ce que ça donne quand je mets les chaussures versus quand je ne les mets pas. Mais sinon, voilà, c'est les petits tests que j'ai fait. Mais
Ok, ça marche. Donc sujet 1 fait, en quelque sorte. Maintenant, tu as encore deux sujets en une demi-heure. À savoir, déjà, merci pour ces précisions par rapport à la mise à la Terre. À nouveau, c'est vraiment pour moi un élément central. Au début, comme tu l'as dit, il y avait une dimension un peu ésotérique. Quand j'ai commencé à comprendre ça, j'y croyais pas. Le côté très sceptique au départ. Et plus je creuse, plus je vois vraiment qu'il y a des bénéfices. À nouveau, c'est à nouveau une petite pierre qu'on a dans sa chaussure en quelque sorte au quotidien qui nous gêne sans qu'on s'en rende compte. Mais l'accumulation des pierres fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus marcher.
C'est
Donc
ça.
autant les retirer au fur et à mesure. Donc à nouveau la connexion à la terre, le fait de respirer par le nez plutôt que la bouche, le fait de voir le soleil, le fait d'éviter les perturbateurs endocriniens et j'en passe. Donc vraiment, c'est une astuce entre guillemets supplémentaire et importante à mettre en place. C'est pas l'élément seul qui va changer votre vie, mais c'est le cumul des éléments qui fera la
Exactement,
différence.
ouais.
Vraiment. Du coup, deuxième élément, bah, soit la testostérone, soit tout ce qui est plante.
On va aller sur la testo.
Allez, parlons testo. Allons-y. On peut commencer par le caleçon? Quel caleçon porter?
Allez. Ouais, ça,
On
c'est
va
un
commencer
sujet.
par la vision micro, après on ira sur du macro.
Ok, parfait. Bah
Ouais,
écoute,
c'est un vrai
oui.
sujet, mine de rien, c'est un vrai sujet, on en plaisante. Mais combien de
Carrément, ouais.
personnes portent des caleçons trop serrés et trop synthétiques? J'ai envie de dire 99% des personnes. Et ça concerne aussi les femmes et les hommes, d'ailleurs.
Carrément, carrément. Ouais, comme tu dis, en fait, alors pourquoi on parle de caleçon? C'est que, en fait, les caleçons, aujourd'hui, maintenant, la plupart des 90% des gens, je pense, comme tu le dis, portent des caleçons qui sont moulants et en matière synthétique, donc typiquement du polyester. Le polyester, c'est quoi? C'est du plastique. Et le plastique, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, quand on porte des caleçons moulants proches de nos testicules, de nos appareils génitaux, on va potentiellement absorber des perturbateurs endocriniens, au plus proche finalement de nos organes. Donc c'est ça qui est un petit peu dramatique. Et donc ça peut potentiellement perturber la production de testostérone, d'œstrogène, même d'autres hormones, hein, il n'y a pas que ces hormones sexuelles, mais d'une manière générale, une fois que ça rentre dans la circulation, dans le sang, les perturbateurs endocriniens vont avoir un effet systémique sur tout l'organisme. Donc c'est les hormones sexuelles, mais pas que. Donc la testostérone...
Pardon. Profite rapidement, perturbateur endocrinien, pour les personnes qui n'ont pas ce terme à l'esprit, c'est quoi? C'est tout le système de production d'hormones du corps humain. Et grosso modo, si on compare ça à un orchestre symphonique où tout est bien réglé, un perturbateur c'est quoi? C'est un mec qui joue n'importe quoi au milieu de l'orchestre. Et du coup, ça désynchronise tout, plus rien ne va, les productions se font mal, moins bonne qualité, moins bonne quantité, et surtout pas également au bon moment.
Pas au bon moment aussi, ouais.
Voilà, grosso modo, c'est ça pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme-là de zone endocrine, de perturbateur endocrinien.
Ouais, très, très bon point. Donc d'une part, les caleçons moulants en polyester sont bourrés finalement de perturbateurs endocriniens, mais aussi le fait qu'ils soient moulants, en fait, ça va maintenir les parties génitales à haute température. Et donc, si on cherche à avoir des enfants, si on cherche à avoir une bonne fertilité, ça va être problématique parce qu'en fait, on va perdre cette régulation thermique naturelle que les testicules normalement réalisent en se comprimant et se dilatant. Enfin, en remontant et en descendant, quand on est un homme, on le sait. Et du coup, si on empêche cette régulation thermique, on va avoir une diminution de la production de spermatozoïdes. Et d'ailleurs, il y a même des slips qui ont été développés pour ça, pour réaliser une sorte de contraception naturelle. Enfin, naturelle, entre guillemets, quoi. Et il y a même des anneaux hein, qui ont été développés pour faire remonter les testicules dans le ventre. Et bon, bref, moi, je ne suis pas fan de ces genres de pratiques. Mais pour dire que ce manque de régulation thermique va diminuer notre fertilité. Donc, il faut vraiment éviter de porter des caleçons moulants le plus possible et en matière synthétique. Donc l'idéal, ce serait vraiment soit de rien porter du tout. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est quand je suis à l'aise, quand ça se voit pas, quand c'est pas inconfortable, bien sûr. Et quand je peux pas, je porte des caleçons larges en matière 100% naturelle. Donc coton, bio si possible. On en trouve maintenant un petit peu partout. Et comme ça, on s'assure au moins de pas avoir cet élément-là qui vient perturber nos hormones. Parce qu'après, comme on va le voir, il y a plein d'autres perturbateurs endocriniens qui peuvent affecter notre production de testo.
Mais l'avantage du caleçon, c'est que c'est un objet qui est physique. Et j'aime bien commencer par cet objet-là parce qu'en fait, ça ancre le fait de respecter également sa testostérone. Et du coup, ça rend plus facilement actionnable les leviers plus complexes. Typiquement, les respirations nasales, l'exposition au soleil, consommer du bon cholestérol aussi. Tu vas en parler, je pense, par la suite. Mais c'est vrai que c'est des comportements qui sont beaucoup moins physiques. Et quand tu fais l'investissement d'acheter déjà un caleçon qui est bio, qui est un vrai caleçon, qui est ample et qui est large, chaque matin, tu vas le mettre, tu vas comprendre, OK, cette action, je la fais pour réguler ma testostérone, pour l'augmenter, pour éviter d'être, comme tout le monde aujourd'hui malheureusement, en déficit de production. Donc maintenant, par biais de cohérence, il faut que je fasse aussi les restes. Parce que c'est un premier pas. Si les restes n'est pas stable, ça n'ira pas.
Exactement.
C'est pour ça que j'aime bien l'objet physique que représente le caleçon. C'est bizarre de dire ça, j'en ai conscience. c'est pour ça que j'ai voulu te lancer sur le caleçon pour commencer.
D'accord. En plus, c'est une des premières choses que tu peux faire le matin aussi. Tu vois.
Complètement. Et tu l'as constamment chez toi, tu le vois. Ouais. Voilà, c'est... En plus, tu prends la vocation parce que tu as une compagne, donc voilà, tu mets aussi de l'attention dedans, dans le choix.
Ouais, carrément. Caleçon, ça c'est important. Après, moi, ce que j'aime bien, là où j'aime bien commencer hein, d'habitude, c'est les quatre piliers. Je considère qu'il y a vraiment quatre piliers essentiels pour optimiser sa testostérone. Donc, tu as d'une part l'activité physique, ensuite, tu as la nutrition, la gestion du stress et le sommeil. Là, c'est vraiment les quatre piliers. Après, il y a d'autres choses qui vont venir se rajouter. Mais déjà, si tu as ces quatre piliers qui sont optimisés, tu peux être presque certain d'avoir des niveaux pas catastrophiques, mais plutôt bien même, tu vois. Plutôt bon, on va dire, même au-dessus de la moyenne.
Après, ça va être... Il y a aussi qui ne sont pas les mêmes, mais on se rejoint par endroit.
Ok.
De mon côté, j'ai respiration nasale, du coup, tu rejoins le stress. Exposition au soleil pour le rythme circadien, du coup, pour la régulation des hormones.
Ouais, ça se rejoint.
J'ai perturbateur endocrinien.
Ouais.
Forcément, c'est un essentiel. Et le cholestérol, parce que c'est la matière première également pour la testo.
Ouais.
Voilà, après, on a chacun ses piliers. Dans tous les cas, à nouveau, on est sur une approche qui est systémique et globale. Donc,
bien sûr. C'est vraiment une approche Ouais, c'est ça, c'est une approche holistique, tout est connecté. Tout est connecté, comme tu le dis, tu vois, les rythmes circadiens, c'est connecté au sommeil, c'est même connecté à... non, c'est connecté au sommeil, donc, enfin plein d'autres choses, mais à la digestion aussi. Donc ouais, le sommeil, pour moi, c'est peut-être un des piliers par lesquels il faut commencer parce que on a de plus en plus de troubles de sommeil dans la population, on manque de sommeil, un sommeil de mauvaise qualité. On sait que le sommeil, c'est hyper important d'un point de vue général pour la santé et pour la sécrétion de testostérone, puisqu'une grande partie de la testo est produite pendant la nuit. Donc si on ne fait pas attention à nos niveaux, à notre sommeil, la qualité de notre sommeil, on peut être sûr de ne pas avoir des niveaux optimaux de testo. D'autant plus que, comme tu le dis, en fait, tout est en interaction. Si tu as un mauvais sommeil, tu vas être plus stressé. Si tu es stressé, tu vas avoir moins de testo. Si tu es stressé, tu vas avoir une moins bonne digestion.
Moins de
Voilà, tout ça,
volonté
c'est
aussi,
lié.
parce que du coup, sommeil et humeur sont liés. Du coup, plus de
Ouais,
malbouffe.
exactement,
Donc, plus de
exactement.
perturbateurs endocriniens, plus de glycémie aussi. Ouais, il y a, tout est lié dans tous
Ouais,
les
c'est
cas. Donc,
ça. Donc optimiser son sommeil, et pour l'optimiser, comme tu l'as dit, le rythme circadien, avoir un bon rythme circadien synchronisé avec le soleil, c'est hyper important. Donc première chose au réveil, moi ce que je fais, c'est que je m'expose au soleil, à la lumière naturelle du soleil. Donc j'ai la chance d'avoir un jardin, mais pour ceux qui n'ont pas de jardin, vous pouvez sortir de chez vous, vous pouvez même, dans le pire des cas, moi ce que je fais quand je ne peux pas sortir de chez moi en hiver au Canada qui fait moins 20, j'ouvre ma fenêtre quand même. Il fait très froid,
Ok, super.
mais j'ouvre ma fenêtre et je fais mes étirements, tu vois, devant ma fenêtre qui est ouverte. Ça, c'est important aussi de ne pas d'ouvrir vraiment la fenêtre et de ne pas juste se mettre derrière la fenêtre qui est fermée, parce qu'en fait, la vitre va bloquer une partie du spectre lumineux qui est bénéfique pour la sécrétion de testo, donc pour les rythmes circadiens, la sécrétion de testo, etc. Donc vraiment, s'exposer à la lumière naturelle du soleil, sans lunettes de soleil, sans crème solaire, voilà, sans rien.
Et autre
Super.
solution aussi, là je me permets, c'est moins cool, c'est moins pratique, j'en ai conscience, mais quand on a des enfants comme moi, acheter une lampe de luminothérapie. C'est pas
Ouais.
le mieux, mais à nouveau, un vaut mieux que zéro. Le mieux, c'est le soleil naturel, on est bien d'accord, mais quand
Bien
les enfants
sûr.
se réveillent, etc., il faut les gérer, on n'a pas le temps d'aller dehors, mais ils sont en bas âge, ce qui est mon cas encore actuellement, je mets la lampe. Parce que là, il faut à tout prix le matin chercher à dire au système, donc le corps humain, comme quoi, là c'est le matin. Et le seul signal
Exactement.
qui lui fait comprendre ça efficacement, c'est la lumière intense. Idéalement naturelle, et quand malheureusement on n'a pas le choix, artificielle.
Voilà, exactement. Toujours des petites astuces qu'on peut mettre en place dans ce quotidien. C'est comme tu le dis, quand on ne peut pas faire de manière naturelle, ben on utilise la technologie pour, on va dire, imiter, reproduire au mieux la nature. Même si ce ne sera jamais pareil, mais c'est toujours mieux que
On est
rien.
d'accord.
Donc ouais, le rythme circadien, c'est super important. Après, il y a plein d'autres astuces qu'on peut mettre en place pour optimiser son rythme circadien. Mais déjà, voilà, ça c'est super important pour le sommeil. Gestion du stress, hyper important. Puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le précurseur commun à la testostérone et à l'hormone du stress, c'est le cholestérol. Donc en fait, si on est constamment stressé, on va avoir moins de substrat pour pouvoir produire de la testostérone. Donc en fait, il y a une relation un petit peu inverse entre la production de testo et de cortisol. Donc c'est important d'apprendre à gérer son stress au mieux. Donc déjà d'avoir un bon sommeil, c'est la base, ça va t'aider à mieux gérer ton stress d'une manière naturelle. Mais aussi, pourquoi pas, apprendre des techniques de relaxation, la méditation, la respiration nasale aussi, ou même l'utilisation de certaines plantes médicinales dans certains cas, qui peut être intéressante, pardon. Le mouvement aussi, tout simplement. Bouger son corps, c'est une excellente manière d'évacuer son stress quand on peut.
Mais Bastien, tu me dis que ça limite le cholestérol, du coup c'est une bonne chose, parce que le cholestérol c'est mauvais,
Alors ça aussi, c'est vraiment la... C'est marrant parce que il y a des croyances qui ont la vie dure quand même.
c'est terrible, hein,
Le
c'est terrible. L'étude des sept myosceltis, effectivement, a réduit à néant l'intérêt du cholestérol. En
Ouais.
fait, de base, effectivement, c'est une étude qui a été menée par un lobby. Et le mec s'est dit, ok, j'observe 21 pays parce que je tire une corrélation entre la consommation de gras saturé et la mauvaise santé.
Ouais.
Mince, ça correspond pas. Allez, je garde que les 7 pays qui me vont bien, j'en tire des conclusions exagérées et le gouvernement américain reprend mes trucs pour
Ouais.
faire une politique sanitaire.
C'est
Et
ça,
c'est terrible,
exactement.
tout le monde le sait aujourd'hui, sauf que l'information ne cascade pas aujourd'hui, quoi.
Non,
Ça,
non,
c'est terrible,
et
hein. C'est
c'est
terrible.
fou, hein. Et tu vois, même je remarque dans mon entourage, quand les gens me voient manger 4 œufs tous les jours,
Oh,
ils
c'est
se
fou,
disent,
hein.
oh, mais t'as pas peur pour ton cholestérol? Et je leur dis, mais en fait, non, il n'y a pas de lien entre ta consommation de cholestérol alimentaire et ton cholestérol sanguin, puis même le cholestérol, en fait, est bénéfique pour la santé. mais aussi pour, en particulier, la production de testo. Parce que, comme on l'a dit, c'est le cholestérol qui va être la brique de base pour la production de testostérone. Et donc,
30% du cerveau, c'est du cholestérol.
ouais, c'est
À
ça. Donc,
partir de là,
c'est ça.
où est le problème?
Exactement. Donc,
La
si tu veux
myéline,
bien.
c'est du cholestérol.
Si tu veux bien fonctionner, tu as besoin de cholestérol.
Sauf que...
Après, il faut savoir que 80%, entre 70 et 80% du cholestérol est quand même produit par le foie. Mais après, tu peux agir justement sur ces 20-30% restants par l'alimentation. Donc, si tu cherches à optimiser ta testo, il faut consommer du cholestérol d'une manière régulière. Bien sûr, je ne vais pas dire de consommer une quantité excessive, c'est pas ça le but, mais d'avoir un apport régulier, constant, c'est quand même bien. Donc, les œufs, le jaune d'œuf, pour moi, c'est vraiment une source optimale. Parce qu'en plus, tu as plein d'autres nutriments qui viennent avec le jaune d'œuf. Tu as de la vitamine D3, tu as du zinc, tu as de
De la colline,
la choline, ouais, c'est excellent, tu as des protéines. Donc, tu as
c'est...
plein de nutriments essentiels pour la production de testo dans les œufs. Après, tu as d'autres sources, tu as la viande rouge, etc. Les abats aussi qui peuvent être intéressants, les fruits de mer. Voilà, il y a plein de sources comme ça qu'on peut. Et qui sont des bombes de nutriments. Hein. Ce n'est pas uniquement en plus pour le cholestérol, c'est que ça vient avec tout un tas de nutriments. C'est des multivitamines naturelles, littéralement. Et donc ouais, pour en revenir du coup à cortisol, testostérone, donc si on est constamment stressé, en fait, on va plus avoir assez de cholestérol pour produire de la testo. Donc vraiment apprendre à gérer son stress, c'est vraiment excellent. Et du coup, dans son alimentation, apporter du cholestérol et ce que tu as un petit peu mentionné aussi, éviter peut-être aussi tout ce qui est pic de glycémie, etc., qui peuvent aussi jouer sur la testostérone d'une manière plus ou moins indirecte, mais quand même ça peut impacter aussi quoi.
Complètement. Bah, effectivement, en plus, la glycémie peut créer de l'obésité, qui peut créer une prépondérance des œstrogènes par rapport à la testo aussi.
Exactement,
Parce que l'obésité, effectivement, aussi, est un ennemi de la production de testostérone.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait dans les cellules adipeuses, tu as une enzyme qu'on appelle l'aromatase qui va convertir la testostérone en œstrogène. Donc plus tu as de gras, plus tu es gras, plus tu vas convertir ta testostérone en œstrogène. Donc, moins tu auras de testo d'une manière globale. Donc, l'idéal, c'est pas d'être complètement trop sec non plus. Hein, et ça, il faut aussi comprendre qu'il faut trouver vraiment le bon équilibre, ne pas être trop gras, mais pas être trop sec non plus. Parce que si tu es trop sec, ça veut dire que tu n'apportes pas assez de nutriments à ton corps. Tu vas générer un stress systémique global à ton corps aussi qui peut impacter ta sécrétion de testo. Donc, vraiment, être pas trop gras, pas trop sec. Et typiquement, je pense que si tu comptes entre 10 et 15% de taux de gras, t'es bien. Voilà. Et après, bon, il y a plein d'autres facteurs, bien sûr, mais ça, c'est quand même important. Et puis après, tu as. Bon, pour l'alimentation, on pourrait rentrer vraiment dans les détails, mais là, quand on n'a pas forcément tout le temps de rentrer, d'une manière générale, manger brut, manger de saison, manger local, manger bio. Là aussi, c'est important. Tu as parlé des perturbateurs endocriniens dans l'alimentation. Donc, les pesticides, c'est une source de perturbateurs endocriniens. Tout ce qui va être aussi ustensiles de cuisine, contenants dans lesquels on va stocker les aliments, les tupperwares, tout ce qui est poêle, voilà, tout ce qui va en fait être en contact avec notre nourriture ou notre eau doit être soit en matière le plus. Pas naturel, enfin, avec le moins de perturbateurs endocriniens possible, donc avec le moins de plastique possible. Donc, faut vraiment éliminer le plastique de notre environnement. Quand on cuisine, arrêter d'utiliser les spatules en plastique, arrêter d'utiliser les poêles en téflon qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens, conserver ses aliments dans des tupperwares en verre plutôt qu'en plastique, utiliser des
L'eau de
bouteilles d'eau.
l'inox, le
Ouais,
verre,
ouais,
la fonte
ouais.
et le bois.
Et céramique, je sais pas si tu l'as dit.
Et l'en céramique aussi, oui, donc ça en
Ouais.
fait 5.
Ouais,
Ouais,
c'est
t'as
ça.
5 éléments, grosso modo, il y en a peut-être d'autres, mais vraiment qui sont essentiels. Les poêles en
Ouais.
fonte, pour moi, c'est un impondérable, c'est plus chiant.
Ouais.
Par contre, ça a le bénéfice d'être lourd, du coup, en même temps, on fait un peu de sport en les prenant. Le bois, c'est essentiel, mais c'est vrai que le plastique, pour moi, maintenant, c'est devenu inconcevable. Et
Inconcevable.
même également les micro-ondes de façon générale, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Également, tu parles de l'eau, tu dis attention à ce qui entoure l'eau, donc à savoir le plastique en l'occurrence, mais
Ouais.
aussi attention à l'eau tout court.
À l'eau tout court, ouais, ça c'est
C'est
évidemment
un vrai
l'eau.
sujet aussi.
C'est un vrai sujet, ça aussi on pourrait en parler pendant longtemps, mais l'eau du robinet, il faut la filtrer. Donc acheter un filtre de qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, bon, on entend d'ailleurs de plus en plus aux infos, aux médias mainstream, des contaminations avec des polluants X, Y, Z. Et en plus, l'eau du robinet, on vous dit qu'elle est bonne à boire, mais en fait, il faut voir ce qu'il y a dedans. Les stations d'épuration, malheureusement, elles ne sont pas efficaces à 100%. Et elles rejettent des boues, en fait, dans la nature, qui vont ensuite déverser des substances toxiques, des perturbateurs endocriniens dans les nappes phréatiques, puis après, on va puiser l'eau dans les nappes phréatiques. Enfin, bref, c'est un cercle vicieux. Et notre eau, du coup, elle est contaminée de métaux lourds, de perturbateurs endocriniens, de résidus même de pilules contraceptives. Donc, ça, d'où ça vient? Ben, en fait, c'est tout simplement les femmes qui prennent la pilule, qui sont surdosées, qui vont éliminer le surplus de pilules dans leurs urines, qui va aller dans les égouts, etc. L'eau qui va être mal recyclée, et du coup, on va retrouver des résidus dans notre eau qui est censée être potable. Alors, bien sûr, là, on parle de quantité infinitésimale, mais c'est vraiment, en fait, l'effet cocktail de toutes ces sources de perturbateurs endocriniens qui va ensuite impacter d'une manière massive notre corps sur le long terme. Parce qu'en fait, on va accumuler comme ça au quotidien plusieurs sources de perturbateurs endocriniens avec l'eau, avec les ustensiles de cuisine, avec même dans l'air qu'on respire, les habits qu'on porte, etc. Et tout ça va perturber notre sécrétion de testostérone. Donc il faut vraiment agir à notre niveau, avec nos moyens, de différentes manières. Et donc acheter un filtre, c'est vraiment important pour moi quand on peut se le permettre,
Et
quoi.
pour boucler avec l'eau, j'ai lu récemment comme quoi 80% des poissons du fleuve Potomac, le fleuve du coup qui alimente Washington en eau, eau du coup des canalisations, ont changé de sexe à cause des
Wow,
perturbateurs endocriniens.
c'est
Il y a même
énorme.
des scientifiques qui disent potentiellement que le phénomène maintenant transgenre qui s'est vraiment développé peut avoir un lien avec l'eau qu'on consomme au quotidien.
Ouais, bon, moi ça m'étonnerait
Ça ne
vraiment
date pas non
pas.
plus parce que beaucoup à nouveau cette notion de surprésence d'œstrogène.
Ouais, c'est ça,
Que l'on va
exactement.
consommer depuis qu'on est né, littéralement, constamment,
Ouais,
constamment. Et l'autre
c'est
bénéfice également d'un filtre à gravité, parce que tu parles de ça, notamment les filtres Berkey et Bergfeld, qui sont très très bons. C'est un investissement, ça coûte peut-être 200-300 euros, mais c'est juste un essentiel selon moi.
C'est
C'est que si
essentiel.
demain il y a une coupure d'eau chez vous, dans le village, dans la ville ou autre, vous prenez de l'eau de puits, l'eau d'une rivière, peu importe. En fait, ce sont des filtres utilisés en mission humanitaire. Donc littéralement, vous devenez également indépendant par rapport à votre consommation d'eau. Et quand on sait
Exactement.
qu'on ne peut pas vivre plus de 7 jours sans eau, c'est un investissement qui vaut le coup. C'est
Exactement.
peut-être un peu, j'en ai conscience, collapsologue de dire ça, mais on sait jamais ce qui peut arriver.
On sait jamais. Et puis moi ça m'est arrivé l'année dernière. En fait, moi, je vis en région, donc je vis pas en ville. Et on a eu des grosses tempêtes, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que moi, mon eau, je la puise d'un puits dans mon jardin. Donc, j'ai pas une alimentation classique comme on a en ville, tu vois. Et le problème, c'est que mon système de pompe, il est électrique. Et en fait, quand on a eu des coupures électriques à cause d'une tempête, on avait plus d'électricité pendant 3-4 jours. Donc, j'avais plus d'eau pendant 3-4 jours. Donc, j'ai été obligé au début, quand j'avais pas de filtre, d'acheter des grosses bonbonnes d'eau. Mais en fait, maintenant, vu que j'ai un ruisseau qui passe devant chez moi, je peux très bien aller remplir ma
C'est
carafe
génial.
Berkey et avoir mon eau, tu vois, dans ces conditions-là. Donc je suis tranquille, en fait. J'ai ma source d'eau, j'ai mon filtre à eau, je suis indépendant par rapport à l'eau. Donc ça, c'est
Et en
vraiment
plus,
super.
on revient à la natte de lit, en fait, c'est juste un comportement à prendre.
Ouais.
C'est pas contraignant au quotidien, juste
C'est pas
une cuve à
contraignant.
remplir.
Ouais.
C'est juste l'action qu'il y a à faire.
C'est ça.
Et le goût de l'eau n'a rien à voir.
Ouais, ça n'a rien à voir. C'est
C'est
Après,
la
quand
nuit et le jour.
tu rebois de l'eau du robinet, c'est horrible. Tu sens tous
Ah, tu sens le
les
chlore, tu
le
sens les
chlore.
aspérités, c'est juste pas
C'est
possible. Moi, quand on me sert de l'eau du robinet, parfois quand je vais au restaurant, je ne touche pas mon verre.
Moi, je touche pas mon
J'ai
verre.
carrément pour te dire, après j'y ai pensé à contre-coup, c'est un peu con, mais souvent quand je prends un café, bah forcément il est fait à l'eau du robinet.
Eh
Mais je veux pas rajouter de l'eau, tu vois. Donc la dernière fois, j'ai coupé mon café trop chaud avec directement de la Sampellegrino en bouteille en verre. C'était infâme. Mais je pouvais pas psychologiquement me dire que je prends de l'eau de la carafe pour le mettre dans mon café. J'ai
Ah,
l'impression
bah,
de
je comprends.
m'empoisonner en fait.
Ah non, c'est ça. C'est ça.
Littéralement.
Ouais, mais moi, je ne bois plus d'eau plate qu'on me sert au restaurant. Soit je commande de l'eau pétillante ou,
Ou en
tu vois, en
bouteille en
bouteille.
verre,
Voilà,
vraiment
d'eau.
de marque, on va dire.
Exactement. Soit même, j'ai toujours, en fait, ma bouteille d'eau sur moi. Donc,
Ok.
même au restaurant, je sors ma bouteille d'eau. Et je bois mon eau. J'ai aucun problème avec ça. Parce que je n'ai pas forcément envie de rajouter comme ça des perturbateurs endocriniens, des toxines, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce que vous allez boire un verre d'eau dans un resto de temps en temps que ça va vous ruiner votre santé. Mais quand vous pouvez le faire, pourquoi s'en priver, quoi?
Et puis quand on le sait, qu'on a conscience de tout ce qu'il y a derrière,
Ouais.
ça devient juste plus compliqué de boire l'eau du robinet que de pas la
C'est
boire en
vrai,
fait. On
c'est vrai. Et
préfère ne
puis
pas
même.
boire que de la boire.
Ouais, c'est
C'est
ça. Puis
terrible.
même, comme tu dis, au niveau du goût, t'as même plus envie.
T'as plus envie.
C'est.
Une fois, j'ai failli recracher l'eau. Juste, c'est vrai que ça paraît bizarre. J'aurais écouté des personnes comme nous qui parlaient il y a 5 ans en arrière. Je dis, mais c'est quoi ces abrutis quoi?
Ouais,
Ça n'a aucun
moi aussi.
sens. L'eau potable, c'est génial, machin, machin.
Ouais.
Ouais, mais juste faites l'effort d'essayer. Soyez des bons sceptiques. C'est comme une voiture, en fait. Quand on change de voiture, quand on monte de gamme, on ne se
C'est
rend
vrai.
pas spécialement compte des bénéfices. Mais c'est quand on revient en arrière, qu'on reprend sa vieille bagnole, etc. Là, tu te vois, ok, le siège n'est pas confortable, l'accélération n'est pas bonne, elle grince, ça va pas. Pour l'eau du robinet, c'est exactement pareil. Quand on prend de la vraie eau qui est filtrée, etc., et qu'on repasse à de l'eau du robinet, en plus, quand on est un peu tiède, un peu chaude, c'est voilà, c'est juste impossible à concevoir. Rien qu'à l'odeur, c'est pas possible.
Complètement, complètement.
Et également, du coup, le sport, comme autre pilier
Ouais,
par rapport à la testo.
c'est ça. Ouais, l'activité physique, quatrième pilier qui est important. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, bon, t'as plein d'études qui le montrent que bon, l'activité physique, on le sait tous, est bon pour la santé d'une manière générale. Mais ce qui va être vraiment bénéfique pour la sécrétion de testostérone, c'est tout ce qui va être activité physique à haute intensité. Donc, tu as la musculation, CrossFit, HIIT, sprint aussi, qui sont vraiment excellents. Intégrer une pratique à haute intensité, c'est vraiment excellent pour si on veut vraiment optimiser nos hormones et la testostérone en particulier, même notre métabolisme, etc. Il y a plein d'avantages. Mais encore une fois, là, il ne faut pas entrer non plus dans l'extrême, il faut faire attention, parce que si on entre dans le surentraînement, on surstimule son corps, en fait, si on dépasse nos capacités d'adaptation, ben là, on va générer un stress chronique qui va impacter négativement notre testo. Donc moi, tu vois, je dépasse pas 3 heures de musculation par semaine. Alors j'ai fait plus dans le passé, je suis allé jusqu'à 5 entraînements par semaine, etc. Mais maintenant, j'ai trouvé vraiment mon équilibre avec 3 séances d'une heure intense. Voilà, c'est vraiment intense quand même, mes entraînements. Alors, je parle d'une heure sans compter l'échauffement. Je fais peut-être aller 15 minutes d'échauffement. Mais après, je fais une heure, voilà, où j'y vais quand même assez fort. Et puis après, voilà, c'est terminé et je passe à autre chose. Et pour moi, c'est vraiment une pratique indispensable si on veut optimiser notre testo.
Complètement ça qu'on dit très souvent, le testostérone également c'est lié au rapport sexuel, d'accord, à l'attirance, à volonté également d'avoir des rapports et
Bien sûr.
etc. Et une analogie que j'aime beaucoup employer par rapport à ça, cette notion que de faire trop de sport est contre-productif. En fait, on n'a jamais entendu de cas de agression, de tromperie, etc., d'adultère chez les personnes qui font de la course de fond. Contrairement aux mecs qui sont des boxeurs. Les personnes qui font des sports de force. Non, mais c'est un peu con, j'en ai conscience, mais c'est vrai que j'ai vu une
Non,
fois, ça m'a
mais
beaucoup fait rire. Donc là, c'est bon, ça enregistre, tu me revois à nouveau. Donc Bastien, on
c'est
est
vrai.
découpé.
Ok. Ouais, pas
On
de soucis.
commençait à parler de plantes, donc si j'assume, t'as parlé du tribulus que t'as critiqué.
À critiquer, mais en gros, j'ai ajouté un petit bémol dessus parce
Bien sûr.
que, en fait, comme je disais, on voit que le tribulus, c'est une plante. En fait, la plupart des plantes médicinales qui sont vendues comme booster de testo sont en fait effectives, en tout cas d'après la science. Là, je parle vraiment du côté vraiment scientifique. Les études montrent qu'elles sont bénéfiques chez les personnes qui sont plutôt âgées, stressées, hypogonadiques, donc des personnes qui n'ont pas une production de testo qui est naturellement bonne, qui ont déjà un déficit en production de testo. Et donc là, chez ces personnes, oui, ça va marcher, ça va permettre de ramener à la normale des niveaux de testo, d'optimiser. Alors que le Toncatali, à l'inverse, est une plante assez qui se démarque par exemple du tribulus, de l'ashwagandha ou d'autres plantes, parce que elle a montré des effets bénéfiques sur la production de testo, à la fois chez des personnes qui sont en déficit, mais aussi chez des personnes qui sont jeunes et en bonne santé, des personnes saines. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un petit peu la numéro 1 ce que je mets sur mon classement pour optimiser la testo. Et même par expérimentation, j'ai vraiment des effets, je trouve, assez forts au niveau de la force, au niveau de l'agressivité, tu vois, quand je m'entraîne, au niveau de la récupération, au niveau de ma capacité à maintenir aussi un taux de masse, un taux de gras qui est assez, on va dire, correct, au niveau de ma libido, voilà, ça joue vraiment. Et donc là, comme je disais, c'est une plante. Alors, je sais pas si ça, tu sais quand ça a coupé à peu près
Moi,
ou.
je pense autant reprendre à la relance. Donc, effectivement, tu parlais de comment la consommer. Tu fais des cures, d'après ce que tu as dit.
Ouais,
Justement, c'est
c'est
quelle
ça,
dose tu conseilles? C'est des cures de combien de temps? Sous quelle forme on peut la consommer? Où tu te
Ouais.
fournis?
Ok. Alors, je fais des cures de 4 à 6 semaines,
Ok.
avec des pauses équivalentes à peu près à la moitié de ma durée de la cure. Donc, si je fais une cure de 6 semaines, je vais faire une pause de 3 semaines. Alors, c'est pas forcément nécessaire. Il y a, tu vois, le docteur Andrew Huberman, un neuroscientifique là, qui fait un podcast super intéressant et qui a invité d'ailleurs un expert en optimisation hormonale, Donc cet expert dit que lui, tu peux consommer le thon catalyst à l'année. Mais moi, c'est plus par précaution, en fait. J'aime bien faire des cycles, en fait, avec toutes les plantes qui vont agir à la fois sur le système, enfin, soit sur le système hormonal, soit sur le système nerveux, pour éviter des effets d'adaptation. Même si, a priori, on n'aurait pas avec le thon catalyst. Mais c'est vraiment, voilà, pour être sûr. Et alors, comment je la consomme? Sinon, bah, en fait, tu peux consommer. Alors, les quantités, ça, dans la littérature scientifique, c'est recommandé entre 200 et 600 mg par jour. 600 mg, c'est la dose qui a montré des effets bénéfiques chez les personnes jeunes et en bonne santé. Donc, j'ai testé 400 mg. 400 mg, ça marche très bien. En ce moment, je suis en train de tester 600 mg. Ça marche plutôt bien aussi. Je sens pas une énorme différence, pour être honnête. Mais entre 400 et 600 mg, c'est quand même bien. Réparti dans la journée, c'est toujours mieux. Donc 200 mg le matin, 200 mg le midi et 200 mg avant ma séance de sport. En général, je préfère la prendre matin, midi ou avant la séance de sport parce que chez moi, c'est une plante qui est assez stimulante. Donc j'évite de la prendre le soir. Et sinon, où est-ce que je me fournis? Alors en ce moment, actuellement, je me fournis chez Nootropics Depot, qui est une marque américaine. Pourquoi je me fournis chez eux? Parce que, en fait, le problème avec le thon catalyst et beaucoup d'autres plantes médicinales d'ailleurs, qui viennent d'Asie en général, c'est qu'elles sont souvent contaminées aux métaux lourds, mercure en particulier. Et ça peut être hyper dangereux pour notre santé. Donc, il faut vraiment être sûr que notre fournisseur ait réalisé un test de pureté au niveau des métaux lourds, au niveau des bactéries, etc., pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination. Et donc, un test réalisé par un labo tiers, pas forcément par le vendeur. Comme ça, on est sûr que ce soit un test d'une source indépendante. Donc, Nootropics Depot, ils ont ce test qui était fait. Et en plus, c'est une forme qui est standardisée. Donc, ça aussi, c'est un critère qui est important pour moi quand j'utilise des plantes médicinales, c'est d'utiliser des extraits qui sont standardisés. Alors, il y a vraiment un petit peu deux écoles de pensée par rapport à ça. Il y en a qui préfèrent consommer les plantes brutes, naturelles, tu vois, avec une concentration en principe actif qui va être naturellement variable. Puisqu'en fait, quand tu prends une plante, ben, parfois cette plante-là, elle va contenir beaucoup de principes actifs, puis tu vas prendre une autre plante, elle va en contenir beaucoup moins. Donc en fait, tu vois, d'un sachet à un autre, d'un fournisseur à un autre, tu peux avoir des quantités variables de principes actifs. Et du coup, avoir un effet qui va varier selon le temps, selon le fournisseur. Et après, tu as tout ce qui est extrait standardisé. En fait, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va extraire certains principes actifs de la plante qui ont montré des effets bénéfiques. En l'occurrence, pour le thon catalyst, ça va être les oricomanones ou des oripeptides ou d'autres principes actifs. Et on va s'assurer en fait qu'il y ait un certain pourcentage de ces principes actifs dans la plante pour 100 grammes, par exemple. Donc tu vas avoir un extrait chez Nootropics Depot, l'extrait est standardisé à 2% d'oricomanone. Donc là, tu sais que dans chaque gélule, tu as au moins 2% d'oricomanone dans chaque gélule. Donc tu as vraiment un effet qui est constant. Donc voilà, c'est un critère supplémentaire. Et donc, ouais, je me fournis chez eux. Alors, j'ai cherché des fournisseurs français. Le problème, c'est que récemment, l'import du thon catalyst a été interdit en Europe. Je ne sais pas pour quelle raison exactement. J'ai contacté plein de fournisseurs européens français. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils n'en vendaient plus et d'autres qui en vendent encore. Et donc là, je suis en train de mettre en place un partenariat avec une marque française qui vend encore du thon catalyst. Donc, potentiellement que dans les mois qui suivent, ça va être interdit. Je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore possible. Donc,
Ça
pour
me
ceux qui nous
rappelle la
écoutent.
psilocybine. J'ai un ami à moi qui fait l'écu régulièrement et la douane a régulièrement a ré récemment pardon ouvert un de ses paquets. Il a été appelé par la douane. Dites-moi monsieur, vous avez sur vous des champignons hallucinogènes, etc. Et c'est dingue de voir à quel point en fait un simple champignon qu'on trouve partout dans la nature et dont les effets sont positifs, sont bénéfiques et surtout sont vraiment minimes en quelque sorte. Hein. J'ai déjà fait des cures de psilocybine, ça fait pas grand-chose. C'est interdit.
Ouais, c'est dingue, c'est
Et c'est
complètement
assez
dingue.
dingue de voir à quel point effectivement on peut contrôler les choses comme ça et les
Ouais.
interdire.
Non, c'est fou. Des choses qu'on trouve dans la nature sont
Voilà.
interdites, quoi. C'est un truc de
Donc,
dingue.
et puis effectivement des choses qui ne sont pas naturelles sont vendues, sont mises
Ouais.
en évidence, sont marketées, sont sponsorisées. Mais tout ça veut dire que
Exactement.
vous pouvez commander la ton Catali.
Ouais.
Faut juste que ça tombe malheureusement pas au niveau du mauvais douanier qui va ouvrir votre colis.
C'est
Si je
ça,
résume.
c'est ça. C'est ça. Si vous
Après, il n'y a pas de
importez
conséquences
de.
dramatiques, hein. Ils jettent le produit et vous avez un petit rappel à l'ordre, c'est pas non plus. Il n'y a pas de prison, on va dire, en quelque sorte.
Non, il n'y a pas de prison, bien sûr, c'est pas dangereux.
Vous allez perdre
Puis
votre temps.
Mais là, c'est sûr, vraiment si tu commandes des États-Unis, mais du coup, si tu commandes en France, normalement, ou en Europe, normalement, tu devrais pas trop avoir ce problème-là, enfin, je pense. Donc, ouais, Tonkatali, Ashwagandha, pour en revenir aux plantes médicinales. Après, j'aime bien, moi, la Rhodiola rosea, qui est intéressante aussi. La Rhodiola, c'est une plante qui vient des côtes d'Arctique, je crois. Je crois que c'est ça. En fait, ouais, elle est dans des conditions, elle pousse dans des conditions assez extrêmes. Et apparemment, elle aurait été utilisée par les Vikings comme un peu un dopant naturel pour partir à la guerre, tu vois, pour les stimuler en fait, parce que c'est une plante très stimulante. Et en fait, la Rhodiola rosea, elle agit sur le cerveau de plusieurs manières, mais il y en a une qui est intéressante, c'est qu'elle va agir comme un inhibiteur des monoamines oxydases. Donc, pour simplifier, dans notre cerveau, on a des neurones qui communiquent entre eux avec des neurotransmetteurs qui sont libérés entre les synapses, donc entre deux neurones. Et tu as des enzymes, des molécules qui vont dégrader ces neurotransmetteurs une fois qu'ils ont été libérés, pour pas que tu aies, enfin pour les recycler même. Et en fait, les inhibiteurs des monoamine oxydases vont empêcher cette dégradation des neurotransmetteurs entre les synapses. Donc en fait, la rhodiola va permettre de maintenir de haut niveau de neurotransmetteurs, de certains neurotransmetteurs au niveau des synapses, et du coup d'avoir un effet prolongé de la dopamine, noradrénaline, etc. Tout ce qui va être neurotransmetteur et la sérotonine un petit peu, tout ce qui est un petit peu catécholamine, donc neurotransmetteur un petit peu stimulant. Et ça va permettre de. Elle a un effet un petit peu antidépresseur, anxiolytique, stimulant. Et moi, je la trouve vraiment intéressante à prendre en cure. Plutôt que ponctuellement. Je trouve qu'il y a plus d'effet, il y a une sorte d'effet cumulatif sur le long terme. Et donc quand on passe des moments un petit peu de fatigue, où on est surchargé physiquement, mentalement, quand on a voilà, beaucoup de choses à gérer en même temps, je trouve que c'est une plante qui est intéressante pour passer ces moments un petit peu stressants. D'ailleurs, on parle de plantes adaptogènes, comme l'ashwagandha, le tonkatali et la rhodiola, ce sont des plantes adaptogènes parce qu'elles permettent de mieux s'adapter, de mieux résister au stress physique ou mental. Donc, Rhodiola, pas mal intéressante. Et pareil, là aussi, je prends un extrait qui est standardisé. Donc là, c'est standardisé en rosavine et salidroside, qui sont les deux principaux actifs de la Rhodiola. Et là, je me fournis chez NutriPure, qui est une marque française de compléments alimentaires de qualité, avec qui je suis en partenariat aussi. Et ils font vraiment que des
C'est vous
produits.
fournit également, oui. Le seul conseil que j'aimerais donner, et je pense que tu vas dans mon sens, c'est le fait que ces plantes-là sont superbes, si et seulement si on s'accorde un repos après leur consommation. Parce que tu l'as très bien dit, c'est fait pour s'adapter à un environnement qui peut être davantage stressant, davantage oppressant et j'en passe.
Bien
Sauf
sûr.
que si le corps humain, logiquement, le vit comme tel, c'est qu'il a besoin plus de se reposer que d'être actif. C'est pareil avec
Parfaitement.
la caféine. Quand on est fatigué, prendre la caféine n'est jamais une bonne idée. Parce que le problème, c'est qu'on prend une dette envers le vivant. Et quand on prend une dette
Exactement.
envers le vivant, c'est qu'on s'autorise à être inadapté. Donc parfois, on n'a pas le choix, malheureusement. Le mode de vie qu'on a actuellement fait que parfois, même quand on est fatigué, même quand on est malade, même quand on déprime un peu, notamment au niveau de l'intersaison, on doit toujours être actif, être proactif, être efficace. Et là, ces plantes sont intéressantes. Mais à nouveau, il faut pouvoir accorder au corps une phase de repos après, pour qu'il puisse effectivement encaisser le coup d'accélérateur qu'on lui a imposé alors que lui voulait freiner. Donc toujours effectivement après une cure de nootropique ou autre, juste avoir un repos équivalent idéalement. C'est là vraiment le petit bémol que je voulais mettre pour pas que les gens se dopent au
Bien
nootropique
sûr.
H24, au final se crament plus qu'autre chose et créent
Carrément.
plus de stress et d'effets négatifs que de cas positifs.
Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est hyper important de respecter ces phases de repos. Et je le fais toujours, tu vois. Alors, soit je fais des cures, comme je l'ai dit, donc avec des pauses. Soit j'utilise les plantes seulement de manière ponctuelle en fait. Des fois, tu vois, l'ashwagandha, je vais le prendre juste avant un événement un petit peu stressant ou tu vois, vraiment ponctuellement une journée. Ou l'ashwagandha aussi, c'est une plante que j'aime bien utiliser si je m'entraîne un petit peu tard le soir. Parce qu'en fait, quand je m'entraîne tard, tu sais, l'entraînement va faire monter le cortisol,
Bien sûr.
l'hormone du stress. Du coup, si tu te couches pas longtemps après, tu vas avoir du mal à t'endormir à cause du stress, du cortisol qui est trop élevé. Du coup, l'ashwagandha va permettre de ramener le cortisol à la normale. Et du coup, de faciliter l'endormissement. Mais c'est une consommation qui est ponctuelle. L'ashwagandha, je ne le prends pas en cure, vraiment. Mais ouais, toujours respecter des phases de repos pour ramener sa physiologie aussi à la normale. Parce qu'il faut savoir que les plantes, même si c'est naturel, en fait, ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux et qu'il ne faut pas prendre des précautions aussi. Et comme je l'ai dit, en fait, tout ce qui va agir sur notre système hormonal ou nerveux, ça va un petit peu entraîner des. Pas des dérèglements, mais ça va un petit peu modifier notre physiologie pendant un temps donné. Donc, il faut ramener sa physiologie à la normale, parce que sinon, même, on peut avoir un contre-coup par derrière. Moi, je l'ai expérimenté quand j'ai débuté un petit peu avec les plantes médicinales, et notamment la rhodiola d'ailleurs, où j'ai trop tiré longtemps en consommant de la rhodiola pendant peut-être de 3 mois, un petit peu plus. Et au moment où j'ai arrêté, j'ai eu un vrai crash en fait. J'ai eu une baisse de motivation, une baisse d'énergie, etc. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le corps, il va s'adapter à cette stimulation constante. C'est un petit peu comme si quand tu prends de la caféine tous les jours, au bout d'un moment, ton corps, il s'habitue et tu as besoin après de ta caféine pour être normal. Tu vois, c'est comme une drogue. Hein. Souvent, on différencie les drogues des plantes médicinales, mais en fait, tout ce qui agit sur notre système nerveux, notre système hormonal, c'est une molécule. Donc, faut le prendre un petit peu comme tel et prendre des précautions qui vont avec.
Il faut laisser en fait au corps la possibilité d'atteindre à nouveau l'état d'homéostasie, qui est l'état
Voilà.
naturel en fait. Les
C'est ça.
extrêmes, c'est intéressant. S'il y a un retour au calme derrière, c'est comme le remèze. Souvent, les gens confondent le remèze avec le fait de se faire mal. Se faire mal, c'est cool. Mais ce n'est pas le rebond positif qui induit une amélioration et un retour à la normale plus tard. Ce n'est pas de le remèze. Tu te fais du mal.
Exactement.
Tu crées du stress,
Exactement.
c'est délétère. Ce n'est pas de le remèze. Se cogner dans un mur, ce n'est pas de le remèze. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu te fais mal, c'est tout. Mais effectivement, prendre une douche froide qui est adaptée, du coup, un froid qui est juste stressant pour soi, même pas trop stressant, avec un effet rebond positif, là, c'est de le remèze. Parce qu'à nouveau, après, on laisse au corps la possibilité de mettre en place les processus physiologiques et biologiques pour s'améliorer et pour redevenir après dans un état normal. Donc si
Exactement.
constamment on booste son corps avec des cachets, des plantes médicinales, du café et j'en passe, on empêche constamment le corps de redevenir à la normale. Et du coup ça se paye forcément un jour ou l'autre parce qu'on encaisse une dette par rapport au vivant.
C'est une dette, clairement, c'est comme si tu avais une carte de crédit, enfin un crédit, et qu'après tu devais rembourser le crédit à la fin, quoi.
On cumule les crédits, on ne peut pas les rembourser.
Ouais, c'est ça.
Tout simplement.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à la notion que tout est cyclique, tu sais. Le corps humain, il est cyclique et il faut respecter ses cycles, en fait. C'est tout ce qu'on fait, les cycles d'éveil, de sommeil, notre humeur, elle est cyclique, le cycle menstruel de la femme, tout est cyclique, la nature, elle est cyclique. Et il faut vraiment prendre conscience de ça, en fait. Qu'on ne peut pas être toujours au top, on ne peut pas être toujours ultra performant, on ne peut pas être toujours hyper stimulé, etc. Et qu'il faut toujours avoir des phases d'action, de repos.
Il faut, dans la mesure du possible, malheureusement, parce que le monde nous impose un mode de vie qui est linéaire dans un cadre qui, lui, est non linéaire.
Complètement,
C'est
ouais, c'est
ça le
ça.
problème, en fait.
C'est
Et
ça qui
la
est difficile.
linéarité est un élément qui est à fuir parce que la nature n'est pas linéaire, comme tu l'as dit, il y a des cycles. Le plus évident, ce sont les saisons. On est fait pour se reposer en hiver. C'est bête à dire, mais on est fait pour se reposer en hiver.
Ouais,
Malheureusement,
c'est
on nous
ça.
impose un mode de vie en hiver qui est le même qu'en été. Et ça,
Ouais.
c'est un vrai problème. Malheureusement, il y a un vrai changement sociétal à faire.
Ouais.
À notre niveau, on y contribue. En informant les gens, en les éduquant en quelque sorte avec nos outils respectifs. Et on en revient à cette notion de 1 vaut mieux que 0. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Ça sert vraiment du
Exactement.
plus. Et après,
Exactement.
tout ce qui vous échappe, malheureusement, il ne faut pas se stresser parce que si ça vous échappe, c'est que
Voilà.
c'est en dehors de vos zones de compétences, en dehors de votre portée. Et plus vous allez accorder de l'importance à un élément qui n'est pas tangible, qui n'est pas atteignable, plus vous allez créer un stress qui ne sera pas résolvable. Avec les conséquences
Exactement.
que ça induit derrière.
Exactement. Agir ce sur quoi on peut agir, et puis ne pas se stresser, parce que de toute façon, l'idée, c'est pas de devenir paranoïaque en se disant: ah, mais mon Dieu, je suis exposé à tous ces perturbateurs endocriniens, aux champs électromagnétiques, et tout ça, et tout ça. Donc, nos stress, faites les choses à votre niveau, en fonction de vos moyens, et petit à petit, vous mettez une brique chaque jour, et à la fin, vous avez une maison. Donc,
C'est beau. C'est beau. On arrive à la fin, Bastien, on a un peu dépassé le temps. J'espère que c'est bon pour toi. Est-ce que
Nickel.
tu as un mot à rajouter? Un conseil, une chose, un livre à conseiller, peu importe. Comment est-ce que tu veux clore ce podcast qu'on a passé ensemble avec nos auditeurs?
Ok. Je dirais, moi j'aime bien parler de la connexion à la nature. Je pense que c'est un élément essentiel aussi à la santé. On en a un petit peu parlé, mais je pense que l'humanité se porterait vraiment mieux si on passait un peu plus de temps en nature pour se connecter à soi-même aussi. Donc n'hésitez pas à sortir de chez vous, prendre un peu le soleil. Baladez-vous dans un parc, dans la nature, ça fait toujours du bien et ça agit d'une manière globale sur votre santé. Donc ça, c'est une chose qui est gratuite en plus, donc profitez-en.
Et comme le dit très bien Andrew Berman, en fait, ce sont des actions effectivement à coût zéro, parce qu'on joue sur la physiologie de la personne sans outils externes.
Sans outil,
C'est une
exactement.
très très belle conclusion. Merci Bastien, puis à l'occasion, on aura l'occasion, je pense, de refaire un épisode d'ici quelques temps pour aborder d'autres sujets que tu maîtrises parfaitement
Carrément,
bien.
ben,
À
ce
très
sera avec
vite.
grand plaisir en tout cas.
Ouais, bah moi
À
aussi,
bientôt.
depuis le temps. À très vite. Salut Bastien.
Ciao.